Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, bonjour, bienvenue à tous sur les ondes de CKIA, c'est votre émission puissance maximale sur, eh bien, le 88.3, ou bien, peut-être que vous êtes devant votre ordinateur en ce moment même et que vous nous écoutez, bien sûr, le petitpeuple.fr, puisque nous sommes en rediffusion, comme à l'habitude, pour ceux qui nous écoutent chaque semaine, sur le petitpeuple.fr. Et puis, j'espère que vous êtes prêts pour la vitesse ultra exponentielle, puisque c'est ça un petit peu le thème de la journée. Nous allons donc passer immédiatement à la vitesse maximale, donc qui dit vitesse maximale dit puissance maximale. Et évidemment, pour le moteur de la journée, eh bien nous avons toute notre équipe de puissance maximale, c'est-à-dire quasiment eh bien 7 personnes aujourd'hui. Ça fait quand même une grosse équipe, hein. Ne l'oublions pas. Puis aujourd'hui, eh bien nous avons en plus un menu extrêmement vaste, puisque aujourd'hui nous allons parler de tests de jeu. Nous allons parler de No More Heroes avec la Wii, avec Vincent Langlois, d'un test de jeu de rôle avec notre testeur en chef Christian Lacroix, et enfin, eh bien, de Grandeur Nature, puisque nous allons faire un espèce de parallèle entre qu'est-ce que c'est finalement la vie de quelqu'un qui fait des scénarios de jeu de rôle à l'intérieur des Grandeur Nature, avec son interaction avec les joueurs à l'intérieur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ou même qui ont envie d'apprendre un petit peu plus, restez avec nous. Ce sera en deuxième partie d'émission avec Kevin Labrec, accompagné aujourd'hui, eh bien, d'un historien des grandeurs nature dont le nom m'échappe, mais qui ne devrait... En fait, c'est quand même assez fort quand même d'avoir un historien des grandeurs nature. On en reparlera tout à l'heure. Mais en attendant, puis parce que c'est le début de l'émission, nous sommes aujourd'hui dans une semaine particulièrement riche en événements ludiques et surtout en actualités ludiques. Puis pour en parler, eh bien, j'ai justement avec moi les deux grands spécialistes de l'actualité ludique. J'ai parlé de Sylvie Tab. Bonjour Sylvie.
Comment ça va?
Ça, c'est un vrai bonjour comme on les aime. Extraordinaire. Et Mathieu Place, bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour.
C'est parce que Sébastien, j'ai failli te donner un autre prénom.
Ok, ah, tu voulais m'appeler comment? Dis-moi exactement comment tu voulais m'appeler. Peut-être que tu voulais m'appeler Mario, parce que c'est vrai que dans les jeux,
ben oui.
Mario, c'est comme un
ben
incontournable.
Oui, définitivement.
Donc Mathieu, qu'est-ce que tu as comme première nouvelle à nous apprendre?
Effectivement, il y a beaucoup de nouvelles cette semaine que j'ai pu trouver sur Internet. Je vais commencer par ma préférée, parce que je vais être sûr de pouvoir la transmettre. En fait, c'est le géant du jeu de société Hasbro qui contrôle les jeux Monopoly, Bataille Navale, Cluedo, Ouija, etc., qui a vendu les droits de ces jeux-là au studio hollywoodien Universal Pictures. Alors ça veut dire que Universal Pictures, dans les prochaines années, c'est prévu pour 2010 et 2011, va réaliser des films basés sur les jeux de société. Alors moi, je trouve ça totalement délirant.
Oui. Imaginez un film sur Monopoly.
Ben oui, c'est
extraordinaire.
Ça. Des gens qui achètent des rues. Ouais, c'est ça, un thriller. Quelqu'un qui s'en va se stationner sur une rue, il doit payer parce qu'il y a un hôtel sur la rue. Je sais pas comment ça va prendre forme, mais moi, mon préféré, c'est vraiment la bataille navale. Si on se souvient du jeu, bon, c'est sûr, c'est une bataille navale, mais ça consiste en fait à lancer des missiles dans l'eau au hasard. Alors, bon, je ne sais pas quel film va pouvoir retransmettre tout l'essence du jeu en tant que tel. Je ne sais pas, ça va être deux sous-marins qui vont se tirer des missiles au hasard jusqu'à ce que...
Moi, j'ai l'impression que ça va être des films comiques pour enfants.
Ah, peut-être. Oui, c'est vrai. C'est ce une serait certitude. Une bonne voie à
par contre, exploiter. Par contre, je t'avouerai que dans la même lignée, Magic the Gathering, qui aussi fait partie de cette lignée-là, risque d'être sûrement beaucoup plus intéressant à mettre en image.
Oui, effectivement, c'est vrai. Magic fait partie de ces jeux-là. Donc, c'est sûr que là, il y a tout un univers très riche qui va pouvoir être exploité et puis ça va pouvoir ressembler à tous les films de médiéval fantasy qu'on a pu voir durant les années. Mais bon, c'est ça. Alors, je vais nommer quelques jeux au cas où j'en aurais oublié. Là. Ouija, Magic, Monopoly, Battleship et Cluedo qui vont être portés à l'écran bientôt.
Moi, juste une petite parenthèse. Là. Comment on peut imaginer faire un jeu avec Ouija? Est-ce que c'est un jeu pour commencer? C'est une grosse question qu'on n'arrête pas de se poser. Là, mais oui. Personnellement, ça me paraît absurde, mais bon.
Bonne question. Bon, j'imagine que ça va être un groupe d'ados qui va jouer à Ouija, puis ça va mal tourner dans un film d'horreur avec
j'ai
des... Ouais, quelque chose comme ça. Moi, j'imagine qu'ils vont pas se creuser trop la tête là, avec ce jeu-là. Ils vont copier tous les films d'horreur qui ont été bâtis dans les dernières années.
Sylvie?
Une petite nouvelle aussi qui va intéresser les amateurs de jeux PC, bien sûr. C'est maintenant officiel depuis le début février. C'est la compagnie NVIDIA qui a fait l'acquisition de AGIA Technologies. On décortique un peu NVIDIA, c'est quoi? C'est le World Leader in Visual Computing Technologies, pour employer leur propre slogan. Donc, c'est le leader mondial. NVIDIA fabrique des processeurs graphiques de haute performance, mais aussi tout plein d'autres solutions vidéo, là, du serveur au portable, etc. Donc, ce sont les inventeurs du GPU, le fameux Graphics Processing Unit. En fait, c'est un microprocesseur qu'on sait qu'il est présent sur toutes les cartes graphiques là, et qui permet de prendre un petit de partager le jus avec le processeur central, finalement. Et AGIA Technologies, c'est quoi? En gros, l'histoire, c'est 5 technologistes innovateurs qui sont venus des 4 coins du monde, Amérique, Allemagne, Égypte, les Indes, se sont regroupés en 2002 pour travailler à améliorer le réalisme vidéo, des jeux vidéo, bien sûr. Donc, ils ont appelé leur regroupement AGIA Technologies. C'est eux qui ont développé et mis sur le marché le fameux processeur Physics, qui est le premier moteur et processeur de calcul physique qui était dédié à combler le vide entre le monde virtuel statique puis la physique en temps réel, en fait. Donc, rendre plus réel la façon dont les objets bougent et se comportent dans le jeu. Les explosions plus réalistes, les mouvements des vêtements. En fait, tout ce qui fait que nos... Il faut toujours augmenter nos cartes vidéo parce que... On a de la difficulté, ça ne va pas bien, qui demande beaucoup graphiquement. Là. Alors, mais faut dire que Physics a eu beaucoup de peine à convaincre sur le marché. Il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, NVIDIA devrait peut-être réfléchir à l'intégration des technologies de calcul physique qui ont été mises au point par eux-mêmes au sein de ses propres cartes graphiques, c'est-à-dire ce qui a été mis au point par AGIA. Puis bon, ça va être peut-être par exemple une nouvelle voie vers le graphique. Ils vont être en mesure d'offrir des nouveaux outils de développement puis des nouveaux processeurs, des cartes graphiques encore plus performantes.
Espérons-le pour eux. Nouvelle. En tout cas, c'est sûr que le marché va très, très bien. Donc, évidemment, ça demande de plus en plus des gros joueurs pour pouvoir fonctionner une fois de plus. Mm-hmm. Moi, vous savez ce que j'ai découvert dans cette merveilleuse actualité? Eh bien, pour vous, chers parents qui avez un enfant, par exemple, qui a quelques petits troubles et qui passe des heures et des heures devant son ordinateur à jouer à des jeux, par exemple, de multiplayer en réseau, eh bien, il vient de sortir en ce moment même un livre qui s'appelle « Mes enfants sont accros aux jeux vidéo » et qui va vous permettre de tout comprendre et peut-être de, je dirais, trouver une solution à cette problématique-là qui, parfois, peut tourner au drame. En tout cas,
avant qu'il soit trop tard.
Exactement. Oui. Puis, vous allez pouvoir trouver ce livre, c'est de Jean-Michel Houillon, c'est aux éditions Les Carnets de l'Info et puis, évidemment, ce sera disponible très, très bientôt. Mathieu?
Oui, une nouvelle qui est très intéressante. Si on regarde, par exemple, bon, là, j'écoutais la radio... dans la voiture en venant jusqu'ici. Il y avait un reportage sur le fait que la télévision perdait du terrain. Après l'industrie de la musique, après le cinéma qui commence à battre de l'aile tranquillement. Et puis, là, il y a la télévision qui commence à perdre du terrain. En fait, la compétition, c'est YouTube, c'est Internet, c'est toutes les chaînes spécialisées. Ce qu'on a remarqué dans les derniers temps, c'est le développement de films, de médias par des amateurs. Alors, c'est le même phénomène qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Et pour emboîter le pas à ce phénomène-là, eh bien, vous avez Microsoft et Nintendo qui ont fait une annonce récemment qui allait ouvrir des réseaux sur leur site web, etc., qui allait faire en sorte que les producteurs indépendants, amateurs, allaient pouvoir mettre des jeux sur ces réseaux-là qui vont être disponibles pour tous les amateurs de ces consoles-là. Alors, on parle de, par exemple, la Xbox 360 et la Wii. Alors, moi, je trouve ça très intéressant de voir que le média se démocratise parce que, comme l'industrie du cinéma, ça demande des équipes tout à fait hallucinantes, beaucoup de gens, beaucoup d'expertise. Mais là, ça ouvre la possibilité à tous les amateurs, à toi, vous et moi qui êtes amateurs de jeux vidéo, de pouvoir développer vos propres jeux et de pouvoir les offrir à la terre entière. Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai l'impression que ça va ouvrir le même phénomène que YouTube a fait à la télévision.
Je t'avouerais quand même que la problématique, c'est que moi, personnellement, je suis absolument incapable de développer un jeu informatique. Je ne vois même pas comment je réussirais ce miracle-là, mais je trouve en effet le concept excellent. En tout cas, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que d'avoir juste une caméra à la main avec des amis, des chums pour faire des blagues ou des stupidités devant une vidéo comme on le trouve sur YouTube, par exemple.
Oui, c'est sûr, mais seulement faire un clone de Space Invaders, j'imagine que ça doit pouvoir se faire et puis ajouter sa petite touche personnelle. Il suffit de ça pour que ce soit très intéressant pour les amateurs du monde.
Sylvie.
OK, on poursuit avec les développeurs.
Oui, allons-y.
on va parler de la conférence des développeurs de jeux annuels qui a eu lieu en 2008.
À San Francisco, ça?
Oui, exact. C'est à San Francisco. Ça a toujours lieu à San Francisco. Et puis, ça a lieu cette année du 18 au 22 février. Donc, c'est très récent. Pourquoi je vous parle de ça? D'un, parce que c'est important de le savoir, mais on ne peut pas vraiment y assister, là, nous-mêmes. Mais aussi, il ne faut pas oublier que cet événement-là attire quand même 16 000 personnes par année, là. Et puis, c'est là où se rencontrent les grands développeurs, les producteurs, les designers de jeux vidéo, les artistes, etc. Tous ceux, bref, qui sont impliqués dans le développement des jeux. Mais durant cette conférence-là, cette année, il y a un monsieur Ray Kurzweil, en tout cas, je ne sais pas, j'espère ne pas trop maganer son nom de famille, qui est inventeur et futuriste.
Peut-être qu'il nous écoute, là, attention.
Tout à coup, c'est
on a un jamais. Téléphone.
C'est ton jamais. Oups. Il a présenté une conférence un peu particulière qui s'appelle « The Next 20 Years of Gaming ». Mais à l'intérieur de cette conférence-là, il y a un petit bout qui m'a beaucoup intéressé et que je veux vous communiquer. Il a présenté comment la technologie informatique va donner aux humains des habiletés surhumaines et même, selon lui, il ne faut pas oublier que c'est un futuriste et inventeur, la presque immortalité. Il s'explique en disant que, selon sa vision à lui, l'électronique moderne est devenue tellement puissante que tous les autres domaines qui en dépendent vont se développer à la même vitesse que les microprocesseurs, par exemple, qui sont toujours de plus en plus petits, de plus en plus puissants, qui les alimentent. Alors, il a donné comme exemple la médecine. Il y a une cellule rouge artificielle qui existe, qui a été créée, qui s'appelle le respirocyte. Pourrait éventuellement, à la vitesse où ça va, dupliquer le travail de la cellule réelle, mais avec 1000 fois son efficacité. Donc ça veut dire qu'on pourrait, si on remplaçait une seule portion de notre sang avec ces respirocytes améliorés-là, on pourrait courir un sprint olympique de 15 minutes sans avoir jamais besoin de respirer ou rester assis dans le fond de notre piscine pendant des heures. Intéressant.
C'est très, très bon. C'est vraiment intéressant.
Ouais, selon lui, la nanotechnologie, je m'excuse, va également permettre de rendre l'énergie solaire beaucoup plus accessible, entre autres, pourrait même dans 20 ans remplacer les carburants fossiles puis devenir la source d'énergie primaire mondiale. Mais au-delà de tout ça, de son point de vue général, il indique que le taux d'espérance de vie augmente à un rythme d'environ 3 mois par année actuellement. Maintenant que ces technologies affectent directement la médecine, il prédit que dans 15 ans, l'espérance de vie va augmenter à un rythme de plus d'une année par année. Donc, faites le calcul. C'est d'où
à chaque année,
l'espérance de vie augmenterait d'une année. Donc, c'est là où il dit presque immortalité, ben, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de fin.
Ça tend vers l'infini, en effet. Moi, c'est marrant, c'est bizarre, parce que je t'avouerais que j'ai aussi vu ce qui s'est passé à ce salon-là, à San Francisco. Puis, moi, je n'ai pas du tout été attiré par le même genre de conférence, puisque je me suis plutôt intéressé à une certaine Brenda Brathwaite qui parlait justement du Anti-Hardcore and Hoties, le Sex in Game, lequel elle dit textuellement qu'elle trouve que la plupart des designers et puis des concepteurs de jeux sont extrêmement pudiques et refusent catégoriquement de mettre des scènes de nudité, ou même dans le dernier Mass Effect où on voyait une scène lesbienne qui avait été retirée. Donc finalement, il y a vraiment une grosse, grosse pudeur, et elle s'insurge contre ce phénomène-là en demandant à ce qu'il y ait de plus en plus de sexe dans les jeux vidéo, pourquoi pas.
Ben, c'est intéressant, mais évidemment, ça retranche tout le public jeune, enfant, de la possibilité d'acheteur des jeux. Là.
Ben, effectivement, on ne peut pas mettre de cadenas sur le jeu. Hein? Donc, c'est accessible aux enfants à la maison, il faut y penser.
Oui, et puis avec 10 millions de développement, généralement, pour faire un jeu, c'est vrai que ça fait cher quand même de la scène nudité. Juste comme deuxième nouvelle du salon des développeurs de jeux vidéo, est-ce que vous avez sûrement dû la voir, cette annonce-là, c'est-à-dire le fameux casque qui va nous permettre de pouvoir diriger dans le futur les jeux vidéo grâce à nos impulsions du cerveau.
Ah, j'ai vu un tel casque là, dans une revue scientifique, mais je ne pensais pas que
l'application... Il vient d'être sorti, il coûtera $300 à peu près, et c'est Emotive, la compagnie Emotive qui le développe. Il s'agit en fait, pour être plus précis, parce que ce n'est pas tout à fait les impulsions du cerveau qui sont prises en compte ici, c'est vraiment plus les mimiques du visage qui vont permettre justement d'une analyse et puis le contrôle de nos futurs jeux vidéo. Évidemment, on s'entend, il n'y a pas encore de jeux qui existent à l'heure actuelle qui fonctionnent avec ce type-là de manette, donc on va attendre encore un petit peu que le développement se finisse. Et tout de suite, Mathieu, est-ce que tu as une dernière nouvelle pour nous?
Oui, petite nouvelle. En fait, c'est le renvoi de Phil Harrison, qui était le président de Sony Computer Entertainment Worldwide Studios. En fait, c'était lui qui s'occupait du développement des ordinateurs liés à Sony. Là. Pourquoi il a été renvoyé, c'est assez nébuleux, mais il a été connu, Phil Harrison, pour avoir critiqué ouvertement Sony de ne pas avoir développé des jeux sociaux. C'est seulement Nintendo avec la Wii là, dans les dernières années qui a développé ce genre de jeu-là. Et puis, c'est un genre qui est en complète explosion. Alors, Phil Harrison a trouvé ça dommage que Sony ne développe pas ce genre de jeu-là pour la PlayStation, évidemment. Et puis, c'est à l'origine d'une querelle avec ses patrons, là.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, hein. Sylvie Tappe et puis Mathieu Place. On vous garde pour tout le reste de l'émission, en tout cas une partie
bien
de
sûr.
L'émission. Puis, eh bien, maintenant, un petit message d'intérêt public, puisqu'il s'agit ici, vous savez qu'on est dans un pays où il fait extrêmement froid, où il peut arriver des maladies de toutes sortes. Eh bien, n'oubliez pas de mettre votre tuque, et entre autres, en France, ça s'appelle une cagoule. Donc, écoutez ça, on se retrouve tout de suite après. On aura tout de suite un test avec Vincent Langlois qui va nous parler du jeu No More Heroes sur la Wii. Donc à tout de suite.
Ouais gros, c'est Fatal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire gars, écoute ça.
Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie.
Non ça va pas, mec c'est le bonheur, on gèle les grelots. Bordel et fait plus froid dans ton frigo. Un pied dehors direct c'est la pharyngée. La mort venait, le microbe tu s'agites. Alors écoute avant qu'il sera trop tard, avant que tu seras tout dur comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papa poules, mais un conseil mon gars, fous ta cagoule.
Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les gants, t'auras les boules, t'auras les boules. Fous ta cagoule, ouais.
Ces profanations funky en direct des quartiers de Marseille.
De ma ville, on crée des gains. Fracasse les estras sur un stylo, les frères en même temps, toujours fromé. Que très bande, face à 90 dans la légende.
Mâche du cagnard.
Ici, on joue au foot et pas au hand.
Frais chemin, serre les dents, comme Yves Montain. Qui repousse le pouce-pouce du mitral dans le vent.
On est de Mars, représente la cagoule. Sans un franc, 5 francs 32 qui nous font ça.
Mais oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis?
Que s'il y a, tu m'engraines?
Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est...
Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les gants, t'auras les boules,
t'auras les boules.
Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule.
Fous ta cagoule,
fous ta cagoule. Tu n'as reçu de l'estalouette, mais pas besoin.
Mais pas besoin,
fous ta cagoule, ouais.
cette maladie qui l'hiver l'anus mérite. Un virus venu du froid qu'on appelle gastro-entérite. La prochaine fois, je mettrai ma cagoule.
Je mettrai ma cagoule sur le pour pas me violer les espèce de fils de. Qu'est-ce qu'il faut que je foute? Ça fait 15 fois que je te le dis pour foutre ta cagoule. Mais qu'est-ce que tu t'es en train de dans ma cagoule? Elle me gratte comme un frottis dans la à ta mère. Elle me donne de l'héritage, j'ai les qui sec. J'aurais pu dire fous ton bonnet, fous ton bonnet, mais c'est moins cool que ce putain de slogan. Fous ta cagoule,
fous ta cagoule, fous ta cagoule.
Menstruation douloureuse.
Foutez qu'elle coule, foutez qu'elle coule.
Bandit panda ainsi que pitbull de flipper.
Foutez qu'elle coule, ouais, foutez qu'elle coule.
Coup de couteau dans la glotte et bien sûr canon à neige bang bang.
Foutez qu'elle coule, foutez qu'elle coule.
Allez.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
The Eye of Judgment.
Et oui, The Eyes of Judgment, l'œil du jugement. Et puis justement, l'œil du jugement aujourd'hui, eh bien, c'est Vincent Langlois qui va nous parler d'un test qu'il a fait sur un jeu de sur la console Wii, il s'agit de No More Heroes. Bonjour Vincent, comment vas-tu?
Très bien, merci. Et toi?
Oui, très 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 bien. Donc No More Heroes, il semblerait que ce soit un jeu qui soit à tendance relativement violente. Sur la Wii, c'est assez rare quand même.
Quelque peu, oui, c'est le premier jeu. Premièrement, c'est un jeu qui était très attendu justement pour ce contenu de violence qui est inhabituel chez Nintendo. C'est un jeu qui est disponible depuis le début février sur nos tablettes, mais qui était déjà disponible 2 semaines avant, donc 3e semaine du mois de janvier aux États-Unis. Publié par Ubisoft en collaboration avec Marvelous Interactive et a été développé par Grasshopper Manufacture. Il joue à un joueur seulement, pas possibilité de jouer à plusieurs joueurs, et se détaille environ $50 là, dans tous les bons magasins. Classé M pour mature, bien sûr, à cause du sang, de la violence, du langage plutôt cru qu'on retrouve dans le jeu, et aussi un contenu qui fait référence, qui a certaines références sexuelles.
Non.
Et oui.
Et qu'est-ce qu'on entend ici par contenu ou référence sexuelle?
Ben, tout à l'heure, je t'entendais parler de
Mass Effect.
De Mass Effect, et qu'on a enlevé certaines scènes et qu'on voyait pas de nudité. Bon, on voit pas de nudité vraiment dans le jeu de No More Heroes, mais il y a des allusions, par exemple. Il y a une des personnages qu'on voit dans une cabine d'essayage d'un magasin en train de changer sa robe. Et on voit, bon, quelques formes.
Et que fait-on avec les Wiimotes pendant qu'elle est dans la...
Et il n'y a rien qui se passe comme ça, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça.
Ah, d'accord.
Je t'expliquerai plus tard pour une référence.
Justement, explique-nous un petit peu mieux quel est le contexte du jeu, l'histoire du jeu.
Alors, No More Heroes, c'est l'histoire de Travis Touchdown. On est ce personnage-là, qui est un habitant de Santa Destroy. Et dans cette ville-là, il habite dans un motel, 2e étage, petite chambre et tout ça. Et c'est un assassin. Il s'aperçoit, au début, on fait le tutoriel et on se rend compte qu'on arrive devant le 10e assassin de la ville et on le tue.
Donc on devient le plus grand assassin de la ville.
On devient le 10e assassin. Le fait qu'on soit dans les 10 assassins nous amène un personnage, la dame dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Sylvia Christel. Je ne sais pas s'il y a des références à une actrice française des années 70-80 qui
possible.
Faisait des films de mœurs légers.
Mais je vois que tes connaissances en la matière sont bien plus élevées que les nôtres.
Non, pas du tout. Ce qui arrive, c'est que cette dame-là pousse Travis à aller affronter les 9 autres assassins de la ville.
D'accord.
Et son but, c'est de devenir l'assassin numéro 1.
Finalement, ça ressemble beaucoup au scénario de Need for Speed. c'est-à-dire qu'il faut devenir le meilleur méchant, finalement, de la ville.
Oui, dans un sens, c'est certain que c'est le but, c'est d'arriver numéro un. Donc, oui, ça ressemble un peu à ça. Bien sûr, avec un peu plus de violence.
Exactement. J'imagine que là, tu dois sûrement avoir des scénarios qui correspondent à chacun des tueurs que tu dois essayer d'abattre.
Tout à fait. En fin de compte, le jeu se passe en deux parties. Moi, je l'évalue un peu de la façon... Une partie Grand Theft Auto, dans laquelle on se promène en ville à bord de notre moto super puissante et on peut aller faire... on doit trouver premièrement des emplois à temps partiel pour ramasser de l'argent parce qu'il est impossible d'affronter les assassins de 1 à 10 sans payer une cote à la fameuse Sylvia. C'est elle qui organise les combats et sans argent, c'est impossible de pouvoir affronter les autres assassins. Donc, on se promène, on a des petits jobs temps partiel, par exemple, aller tondre le gazon, ramasser des noix de coco et aller les amener au marchand, nettoyer des graffitis sur des murs. En fin de compte, c'est ça. Toutes des activités qui sont assez spéciales.
J'imagine que c'est la meilleure partie du jeu. Laver des graffitis sur un mur, j'imagine tout à fait ce qu'on peut faire avec
oui,
une
avec la Wiimote et tout ça, oui, ouais. Et même tondre le gazon avec la tondeuse. c'est amusant. C'est certain que ça peut être un peu répétitif au long, parce qu'on doit absolument passer par ces étapes-là pour ramasser de l'argent, pour pouvoir affronter nos différents assassins, en fin de compte. Et ce qui arrive par après, c'est quand on a le montant adéquat pour pouvoir aller affronter les assassins, on va au guichet automatique, on paye ça. Et la fameuse Sylvia nous appelle, qui est très intéressant justement parce qu'on reçoit le téléphone sur, en fin de compte, à l'écran. Et avec la Wiimote, on entend, par le haut-parleur de la Wiimote, comme c'est un vrai téléphone, on entend la conversation qu'elle nous donne finalement. Et quand on a payé, on peut affronter maintenant les différents assassins qui... On doit passer premièrement par une bande, la bande de l'assassin, en fin de compte, c'est bras droits. Qu'on doit affronter au katana, on doit tous les tuer, oui. Et bon,
c'est très violent, il y a du sang partout, ça gicle.
C'est violent, il y a du sang qui gicle, mais c'est très caricatural aussi. Les dessins sont, ou l'animation est faite de façon assez spéciale. C'est un jeu unique, parce qu'on s'attend en 2008 à avoir des jeux à la style Call of Duty 4, dans lequel là, c'est presque réel.
Très et réaliste,
ce qu'ils ont décidé de faire, en fin de compte, mais je ne sais pas si c'est parce que la Wii ne peut pas nous amener plus loin que ça en termes de graphique. C'est certain que la Wii a une certaine limite. Mais ce qu'ils ont décidé de faire, c'est garder quand même des graphiques assez caricaturaux, assez cartoon. Et avec ça...
Sous forme de manga un peu?
Pas vraiment manga, non. Mais c'est certain qu'il y a des jeux de la Wii qui sont sous cette forme-là, mais pas vraiment comme ça. Plus, je comprends
plus
ce que tu
disais. Comique américain.
Oui, c'est ça, comique américain.
Ouais, ouais, okay.
Et avec ça, en fin de compte... Il y a une ambiance aussi qui revient au jeu 8 bits un peu. Mmh, il y a des sons 8 bits. Quand on rentre dans les menus, par exemple, la vie, c'est un rond avec des gros pixels, avec un petit son 8 bits qui sonne en arrière. La carte pour se diriger dans la ville, encore là, est vraiment pas belle. Là, mais on dirait que c'est voulu pour revenir à une certaine génération, faire un clin d'œil aux générations de jeux du passé.
Puis dis-moi, au niveau de la façon de jouer, de la mécanique, puis de l'utilisation des Wiimote, est-ce qu'il y a une bonne interaction? Est-ce qu'il y a une bonne jouabilité?
Bien, on s'attend, en fin de compte, on doit jouer avec le Nunchuck et la Wiimote qui sont branchés ensemble.
Ouais.
On s'attend à ce que, parce que Travis utilise un katana laser et non un sable laser.
Mm-hmm.
Petite allusion.
A-t-il la force?
Oui, il l'a. Et on s'attend peut-être au début à dire, je vais me battre en faisant les mouvements de Wiimote gauche-droite, et c'est pas ça du tout. Il y a un peu des combos, et c'est la deuxième partie, la partie combat, qui, moi, me fait penser un peu à... au jeu Ninja Gaiden qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la PS3, Ninja Gaiden Sigma, je crois, et dans lequel on se bat à répétition contre des adversaires, on fait des combos avec les boutons, et plus vite tu les fais, plus différents mouvements que tu fais ou dépendant des boutons que tu touches. Avec la Wiimote, on finit seulement à presser sur le A pour se battre. Et les combos, au fur et à mesure... parce que tu peux débloquer des combos en allant t'entraîner, par exemple, au gym, mm-hmm. en payant dans la partie ville. Quand tu débloques ces combos-là, ben, tu peux les utiliser en pesant plusieurs fois sur la manette, en levant la manette en haut, ben, à la verticale pour faire des attaques plus haut, en la mettant à l'horizontale pour faire des attaques plus bas. Et avec le A, c'est les attaques avec le katana laser. Si on utilise le B qui est en dessous de la manette, on a des attaques de poing et de coups de pied.
Est-ce que c'est assez décevant à ce niveau-là?
Parce que là, tu as l'air de le décrire, mais ça n'a pas l'air super envoûtant. En tout cas,
non,
ça
mais
l'air de...
c'est quand même bien. C'est certain qu'on s'attend à pouvoir jouer avec notre Wiimote et à se battre comme si on avait une épée dans les mains, mais on peut comprendre que c'est peut-être pas encore développé à ce niveau-là. En fin de compte, le récepteur de la Wiimote qui capte le mouvement de... En fin de compte, tout ce qui est capteur, peut-être que c'est pas rendu à ce niveau-là. Et peut-être que ça n'arrivera pas à ce niveau-là sur la Wii. Mais non, je trouve ça quand même assez intéressant. C'est bien. C'est certain que, bon, c'est seulement du presse-bouton et des choses comme ça. Mais au total, ça reste un jeu qui est quand même bien. En fin de compte, on arrive à... Parce qu'en fin de compte, on fait pas seulement se battre avec l'épée. On peut se battre au poing, on peut se battre au pied. Et... Travis Touchdown est un amateur de lutte et on fait des prises de lutte aussi en même temps. Donc, si on réussit à sonner un adversaire avec un coup de pied, il est possible, avec la Wiimote et le Nunchuck, par exemple, en levant les deux dans les airs, c'est le jeu qui nous l'indique, ou en croisant les deux, c'est possible de faire une souplesse arrière ou un marteau-pilon avec nos adversaires. Pardon?
La prise en quatre?
La prise en quatre, je ne l'ai pas encore débloquée, mais
le jeu n'est pas complet.
Peut-être. Le jeu n'est pas complet sans la prise en quatre, je suis d'accord, Christian.
Donc Vincent, No More Heroes sur la Wii, tu lui donnerais à peu près combien si tu devais le coter?
Moi, je lui donne un 8 sur 10.
Ah mon Dieu, oui.
Un 8 sur 10 pour l'innovation, dans un sens.
Est-ce que tu ne nous présentes jamais que des bons jeux ou c'est juste que ça tombe comme ça depuis quelques temps?
Non, c'est quand même des bons jeux. On verra avec les autres qu'on essaiera dans les prochaines semaines. Mais c'était un jeu attendu.
Oui.
Et vraiment, là, c'est certain qu'au niveau graphique, je m'attends à plus. J'aurais peut-être pu lui donner un 9, un 10, je m'attends à plus, mais la façon dont ça a été amené par la compagnie, puis de dire que, bon, on a une petite interface 8 bits, puis bon, leur pardonne ce côté-là.
Puis une dernière question pour toi, est-ce que c'est un jeu qui prend énormément de temps à jouer?
D'après moi, ça doit être une dizaine d'heures, 10 à 12 heures pour le faire.
Ah, ça c'est bien.
Donc, oui, ça se fait assez bien.
C'est parfait. Bien, merci beaucoup, Vincent, pour cette chronique sur No More Heroes, que je répète, donc sur la Wii, développée par Ubisoft.
C'est publié par Ubisoft, développé par Grasshopper Manufacturing.
Ok, bien merci beaucoup. Ça veut dire qu'on va te retrouver peut-être dans une semaine ou deux semaines, dans trois semaines pour être plus précis. Puis là, tu vas nous parler de B-Movie qu'on vient juste de recevoir et que tu vas pouvoir essayer. On a bien hâte de t'entendre sur ce sujet-là. Puis juste le temps de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite avec Christian Langlois qui va nous faire, qui va nous parler d'un test de jeu de rôle, puisque c'est notre spécialiste de jeu de rôle, donc restez avec nous. On se retrouve tout de suite après un deuxième extrait de Fatal Bazooka qui aujourd'hui, c'est un spécial Fatal Bazooka, donc écoutez ça.
Duval, yeah. Le plus grand des rappeurs québécois, il pratique le rap canadien sec, en anglais le rap Canada Dry, Jean-Baptiste Duval.
Oh yeah. Représente le 33, moi convention de Goya, mes braqueurs des banques.
Ben, bienvenue.
Tintin, jeune droguet.
Oui.
Pute blanche, pute.
Voilà.
Même si t'as jamais tué un Cayenne, je me vendis un gramme de poudre. Alors à tous ceux-là qui te calotent la bouche, tu nous gosses. Laisse-leur savoir.
Ouais.
L'autre jour, chez qui moi, je mets une blonde bonne. J'avais les yeux dans la graisse de Bim Bam. Amende son barbe, ça veut tu pour 100 dollars. Elle me dit, tintin, jeune droguet. Tiguedo, je lui dis, on se bloque pas besoin de poutine. On se compte fleurette, puis direct on se met à se breaker. Les choses se passent de ce matin, c'est clair, jeune drogué.
Ça fait du bien dans les oreilles.
Est-ce de foutre, c'est le pain béni. Comme une maladie, ma juste chair. Ma tabernacle de colis, de grise de mort.
À toi, JB.
Pas de lait, d'hostie, de sacrement, de Saint-Cyboire. Preu, preu. Avec un minette, on se crabe comme une vieille paire de bombettes. Mon wanani, j'ai retrouvé tout pourri au milieu des épluchettes. Il me chaudait comme un chien chaud dans un jour. On était là,
bien là,
Tintin, jeune drogué.
Oui, vraiment. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé.
Et oui, si Normand Lamour nous écoute, ça veut donc dire que forcément Puissance Maximale, c'est une excellente émission. Et en parlant d'excellente émission, eh bien, nous allons tout de suite passer à
Christian Lacroix et non pas Langlois comme ça a été dit tout à l'heure. C'est une énorme erreur, je m'excuse. Bonjour Christian.
Salut Sébastien, je ne suis pas le frère malheureusement de Vincent. Non.
Malheureusement,
c'est vrai. Je suis juste un collègue.
C'est pas grave, ça peut s'arranger.
Ben oui.
Dis-moi Christian, tu nous parles aujourd'hui de deux jeux de rôle, des vrais jeux de rôle oui. que tu as essayé. Il s'agit de quoi exactement?
Ben en fait, je n'ai pas essayé encore parce que donc il y en a un qui vient tout juste de sortir, puis c'est un gros tome là, que je viens de recevoir. Donc, j'ai commencé à lire la lecture. Dans les deux cas, je suis en train de les lire. Donc, c'est plus une présentation que je vais faire. Et ça va bien avec le thème parce que les deux jeux sont dans le... C'est des jeux de science-fiction. Donc, on parlait de puissance maximale, de vitesse maximale. Je ne sais pas trop. Ça fait futuriste. Alors, voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est deux jeux complètement différents. C'est vraiment des opposés. Vous allez voir. Le premier, c'est une nouveauté. Donc, Dark Heresy, dont j'ai parlé un peu tantôt là, il y a quelques semaines quand j'avais fait une montée de lait pour dire que ça vient de sortir, puis la compagnie a fait faillite, tout ça. Mais bonne nouvelle, tout de suite en partant,
compagnie n'a pas fait faillite.
Oui. Ben, comme la division a quand même été fermée, mais les droits de continuer ce jeu-là tout ça, ont été donnés à une très bonne compagnie qui fait des jeux de plateau, Fantasy Flight Games.
Oui, donc, une excellente compagnie qui fait des excellents, en effet, jeux de plateau.
Ben oui, basé donc à Minnesota. Et donc, je pense qu'ils sont entre bonnes mains. Ils font des jeux de rôle, d'ailleurs. Le fameux Midnight, entre autres, qui est très bien. Donc, ça augure bien. On reprend espoir de ce côté-là.
En tout cas, moi, j'ai vu la couverture du jeu que tu nous présentes aujourd'hui. Et puis, je pense qu'ils ont mis l'accent quand même sur le visuel. C'est très, très beau.
Oui. D'ailleurs, présentation visuelle, là, 10 sur 10. Je pense qu'on ne peut pas battre ça. Et c'est d'ailleurs la marque de commerce, je pense, des produits Game Workshop. Ils sont toujours superbes.
Par contre, ça a l'air écrit extrêmement petit et ça a l'air très gros.
Oui, c'est vraiment un tome immense, mais il se lit vraiment comme un charme. Là,
d'accord.
Ah oui, moi je rentrais là-dedans, là, puis c'est génial à lire. C'est sûr qu'il faut, ça vise un peu les gens qui connaissent Warhammer 40 000. Il faut aimer un peu ce style-là. Et c'est très très gothique. Le mot-clé, c'est gothique, sombre. Il y a des ongles noirs. Ah oui, noirs. Écoutez, vous avez des points de folie là-dedans. Et vous avez aussi des points de corruption. Donc, c'est vraiment un jeu un peu... Ça a été comparé à Cthulhu. On en parle souvent de Cthulhu, là, bon, l'univers de Lovecraft. Bon, mais Cthulhu in Space, dans le sens que vous jouez des espèces d'enquêteurs, okay, des inquisiteurs. Donc, vous voyez un peu des inquisiteurs modifiés génétiquement, à moitié fous. Et là, vous pourchassez des mutants. Et juste pour vous donner une idée, là... Du ton, dans les classes de personnages qu'on peut prendre, il y en a un qui c'est le scum. Donc, c'est comme tu voulais la raclure, là, je sais pas. C'est un bum, finalement. Là,
ça donne le goût de jouer.
Ben oui. Puis là, tu regardes les images, mon Dieu, ça se peut pas. Je joue ça, moi. Mais bon, on peut jouer ça. C'est vraiment l'espèce de voleur, là, mais tout est caricatural là-dedans. C'est vraiment, là, tout le monde est sale et tout le monde est en tout cas. C'est vraiment quelque chose. Un peu comme Warhammer Fantasy. Mais encore plus exagéré, là. C'est vraiment spécial. Donc, en gros, c'est ça. Je ne peux pas vous en parler beaucoup plus parce que je n'ai pas encore testé le jeu. Je pourrais peut-être revenir une fois.
Mais c'est un jeu qui se passe dans le monde de Warhammer. Donc, pour ceux qui aiment Warhammer, j'imagine que ça va devenir très rapidement quelque chose de très intéressant et un incontournable peut-être.
Oui, parce que justement, et c'était attendu depuis à peu près 20 ans. Il y a des gens, là, ça faisait 20 ans qu'ils attendaient ça. Il y avait eu une première version. La première édition, dans le fond, de Warhammer 40 000, s'appelait Rogue Trader. Il y a 20 ans, et c'était plus un jeu de rôle qu'un jeu de miniature. Et c'est devenu, quand Citadel a racheté Game Workshop, c'est devenu un jeu de miniature, de table, comme on connaît.
Mon Dieu, 20 ans, c'est long. Hein?
Oui, c'est long, 20 ans.
Puis j'imagine que 20 ans à attendre, surtout, ça veut dire qu'il y a des très vieux joueurs.
Oui, on va sur les forums, mais il y a beaucoup de gens à la cinquantaine qui étaient, bon, il était temps, puis là, les grognards qu'on appelle, là, puis là, ils sont contents, mais en même temps, encore un peu frustrés, là, bon, il était temps. Donc, ils l'attendaient de pied ferme. Mais à date, les critiques sont positives.
Est-ce que tu peux nous rappeler le titre exact de ce jeu de rôle?
Oui, c'est Dark Heresy.
Dark Heresy de...
Ça fait métal. Écoutez, une pochette d'un album métal.
Puis la maison d'édition?
Maison d'édition, donc Black Industries.
Toujours celle qui vient de disparaître. Donc, si vous voulez la suite, oubliez ça.
Oui, les prochains, ça va être Fantasy Flight.
D'accord. Puis, comme deuxième jeu de rôle que tu nous as apporté aujourd'hui?
Oui, alors, complètement différent, vraiment, là, à l'autre opposé. Donc, Transhuman Space, qui se sert du système de GURPS. Donc, et c'est un livre qui est intéressant parce que vous avez besoin seulement de ce livre-là pour jouer. Par contre, il y a vraiment une myriade d'extensions qui sont sorties après pour détailler l'univers. Mais moi, en tout cas, pour l'avoir lu en bonne partie, je peux vous dire que déjà, le livre de base est très, très riche. Et donc, quand je dis, pourquoi je dis que c'est à l'autre opposé de Dark Heresy, c'est parce que c'est super réaliste, ce jeu-là. OK? Donc, ça commence par une espèce d'extrapolation sur le futur prochain, genre les 100 prochaines années. Et vraiment, on lit ça, puis c'est troublant. Là. On parle de la montée de la Chine, après ça, le fait de former des continents, là, des méga-pays, les corporations qui... Et c'est toutes des choses qu'on remarque déjà, la guerre autour de l'eau, toutes des choses qu'on remarque dans l'actualité, mais là, qui sont extrapolées. Et ça devient vraiment presque épeurant de lire ça. Et évidemment aussi les problèmes liés à l'intelligence artificielle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que là-dedans, il y a des robots, par exemple, qui deviennent tellement conscients qui commencent à essayer de se libérer, d'essayer de former des syndicats, si vous voulez, des groupes de pression pour dire « on a des droits, on est éveillé maintenant, on dépasse nos créateurs ». Alors là, c'est toutes des questions morales. Mais le problème, par contre, c'est comment on va articuler ça dans une partie. Moi, c'est ça, c'est là peut-être que j'ai un problème. Tu lis ça, tu dis « waouh, génial, bravo à l'auteur, d'ailleurs, David Pulver, qui est une sommité dans... ». Mais c'est la recherche derrière ça, c'est fascinant. Même quelqu'un qui aime juste la science-fiction, je vous dirais, il va trouver son compte à lire ça. C'est vraiment un plaisir de lecture pour les amateurs.
Mais finalement, si je comprends bien, c'est vraiment de la science-fiction d'anticipation assez proche, puis qui fait référence à beaucoup d'auteurs qui ont quand même parsemé le genre science-fiction, si je comprends bien. Donc finalement, si on a envie de jouer à ce jeu-là, il suffit juste d'avoir lu passablement des livres comme Van Vogt ou par exemple Asimov.
D'ailleurs,
avec
on donne
les robots.
Une bibliographie assez complète de ça, et on donne une bibliographie de la recherche qui a été faite même. C'est vraiment très... Ça peut être lourd, c'est rébarbatif peut-être pour ceux qui n'aiment pas la science-fiction. C'est vraiment ce qu'on appelle la hard SF. Là, donc, c'est vraiment... Là, pour les sérieux. Mais et il y a beaucoup de règles. Les règles sont quand même très bien faites. Comme je disais, c'est complet, mais c'est GURPS. GURPS est reconnu. Là, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas GURPS, c'est un système générique universel. Donc, c'est générique Universal Role Playing System. Donc, c'est un système là, qui se veut très, très ambitieux. Mais souvent, le petit défaut qu'on lui reproche, c'est d'être un peu lourd à gérer, à jouer. Là. Mais par contre, c'est modulaire, donc on peut prendre les modules qui nous intéressent. Mais moi, je le recommande fortement, c'est très bien compris.
Est-ce que tu peux nous rappeler le titre?
Oui, donc Transhuman Space, un livre fait par GURPS. Alors, donc,
c'est la maison d'édition, c'est GURPS.
Non, la maison d'édition, en fait, c'est Steve Jackson Games.
Ah, c'est Steve Jackson Games.
Okay, oui. Et le système, c'est GURPS. Donc, je vous le recommande fortement.
Dis-moi, Christian, j'espère que tu vas avoir l'occasion de pouvoir y jouer à ces deux jeux-là.
Oui.
Puis qu'on va t'entendre là-dessus très rapidement. Justement, on a deux experts de grandeur nature. Peut-être à qui ça va donner quelques idées de jeux ou de scénarios. Puis ça tombe bien parce que tout à l'heure, on les rencontre et puis on va leur poser des questions sur la façon de faire et sur la façon justement d'amener un scénario à l'intérieur d'un grandeur nature et de l'interaction que ça peut engendrer avec les joueurs. Donc surtout, restez avec nous. Merci encore, Christian, pour cette chronique jeu de rôle.
Oui, ça fait plaisir, Sébastien.
Et jeu de rôle, pas drôle comme d'habitude.
Oui, c'est surtout Dark Heresy, c'est pas très drôle.
Non,
c'est
exact.
On rigole tellement, c'est absurde.
Et puis, on se retrouve tout de suite après cette troisième chanson de Fatal Bazooka. Ah, j'ai oublié. C'est vrai que là, maintenant... Et oui, comme à chaque semaine, eh bien, nous avons l'opportunité à tous nos auditeurs de faire gagner eh bien, un jeu. Aujourd'hui, il s'agit de Kabuki sur la Wii. Pour la troisième fois, Kabuki sur la Wii. Vous avez juste à téléphoner au 529-90-28. 529-90-28. Et c'est notre gentil téléphoniste qui va vous répondre. Vous avez donc l'occasion pour tous nos auditeurs de pouvoir remporter ce superbe jeu que nous avons déjà eu l'occasion de présenter il y a de ça 3 semaines. Ça sera juste pendant la pause musicale. Donc, restez avec nous. On se retrouve avec Kevin Labrecque qui va nous parler des grandeurs nature. Vous êtes sur les ondes de Sekaya et ses puissances maximales.
Ouais, c'est qui là?
Fatal, c'est Vito. Ouvre-moi.
Ça va, Vito? Alors bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Bien? T'as vu?
Non, ça va pas, non.
Bah dis-moi, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Faut pas taper.
Fatal, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma soirée à boire. Fatal, je la sens pas, je sais pas.
elle doute de moi.
Mais Vito, arrête, tu sais, ta meuf t'aime. Ta meuf m'a dit, tu sais, avec Vito, la confiance règne. C'est mon petit chou à la crème. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ta meuf est cool, ta meuf est bonne, Vito. T'en es que des tonnes, elle se doute de rien, elle est trop conne.
Oh, mais qu'est-ce t'en sais, toi? Ça fait le mois qu'elle me fait trop peur.
Oh, bon?
Qu'elle check mes messages tous les quarts d'heure.
Change ton code PIN.
Elle a infiltré mon répondeur. Ma meuf est devenue une autre femme, ouais.
T'es sûr de toi? T'en as la preuve par trois?
Elle devient zappée toutes les nuits. Elle me fait suivre par son frère Denis, qui a même prévu de me casser la gueule mardi. Ça tient l'angoisse, un vrai cauchemar. J'ai tellement peur d'elle le soir, j'ai tort à l'hôtel.
De Ken, des autres nanas, toi. Tous les trucs bizarres, les plans à trois et les pétasses, quoi. Tous tes bobards, pour tes 5 à 7 peinards. T'as un putain dans le slip en Vito, t'es un peu que tard.
Tiens-moi.
Et ben voilà, dis-lui ça.
Excuse-moi.
Ouais, ça c'est bien ça.
C'est arrivé chez soi.
Ouais, non, ça lui dit pas.
Mais je sais pas si j'assume de ne coucher qu'avec elle.
Ok, on va la tête, donne-moi les clés, ce soir on fait la fête. Putain, j'y crois pas, donne-moi une claque. Comme elle t'a rayé ta BM, elle t'a crevé ta BM. Elle a même chié sur la banquette, la BM. Alors que putain, c'est la mienne.
Excuse-moi.
Mais pourquoi la vie de ma gueule?
Je sais pas.
T'osais pas lui dire quoi?
Qu'elle était à toi.
Oh, enfin, moi je l'avais emprunté, t'as vu.
Je voulais pas assumer de la sortir en 4L.
Bah, parce qu'elle va me la rembourser, c'est abusé.
Pas.
Allez, faut que tu lui parles, gros.
Je la gère, là.
Et bah, ouvre la boîte à gants, alors.
J'aurais pas dû tenter les fruits de mer dans le cocktail.
Vas-y, tape. Non, tape, je t'ai dit.
Ouais, 12 secondes, j'arrive.
Allez, vas-y.
Mais qu'est-ce que t'as fait, là? Pourquoi toute cette violence? Moi, j'ai rien fait, moi.
Ouais, tu
lis. Je te jure, cette fille, je sais pas ce qu'elle foutait chez moi.
Hein?
En tout cas, j'étais pas. Ou bien, c'était pas moi, parce que moi, je chantais ma chienne.
Ta chienne, elle est morte il y a 3 ans, vas-y, dégage.
Ah non, justement, elle s'en est sortie.
Mais ferme ta gueule, mon gars!
Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, toujours sur les ondes de Puissance Maximale, c'est votre émission d'intérêt ludique. Et aujourd'hui, eh bien, nous parlons de grandeur nature. Ça devient comme une habitude maintenant puisque nous avons Kevin Labrec avec nous pour la troisième semaine consécutive, je dirais, il commence pratiquement à avoir un fan club qui vient de se monter sur Kevin et sur les grandeurs nature. Donc bonjour Kevin.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu nous as apporté avec toi, tu nous as emmené eh bien, ton spécialiste, ton historien des grandeurs nature. Est-ce que tu peux nous le présenter?
Oui, c'est Antoine Mercier, notre historien / scénariste du grandeur nature Midgard, l'aube du Ragnarok, qui va venir nous présenter un peu les systèmes de scénarios autour des grandeurs nature et tout ce beau système magnifique-là.
Donc, en fait, expliquez-moi un petit peu comment ça fonctionne exactement pour un grandeur nature. J'imagine que bah, vous avez un scénario de base, vous invitez les gens à venir et puis vous leur présentez le contexte. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe?
Oui, ce qu'on fait pour le scénario, c'est-à-dire que chaque organisation prend ses couleurs. Il y a une grande liberté à ce niveau-là parce que il n'y a pas de moule auquel tout le monde doit se conformer dans ce jeu-là. C'est très libre et c'est un peu au goût de chacun. Pour notre part, on est allé d'une formule qui se veut un peu historique à laquelle on greffe. Du moins on greffe certains éléments fantastiques, puis pour on veut surtout pas se contraindre là-dedans.
Parce que j'imagine finalement que c'est ça un peu le challenge pour vous, puis le défi, c'est vraiment que les gens ont le droit de se balader partout où ils veulent. C'est-à-dire ils peuvent se marcher, rencontrer du monde, s'ils ont envie de se tabocher, frapper quelqu'un, à la limite ils auraient quasiment le droit. Donc j'imagine qu'en effet ça doit être compliqué de pouvoir engendrer une direction à l'ensemble.
C'est ça. Puis à ce niveau-là, il faut un peu... notre rôle, c'est de donner une raison aux gens de se taper dessus ou de faire quoi que ce soit ou de commercer ou de comploter contre un. Il faut leur mettre un scénario derrière ou en tout cas une histoire de fond à laquelle ils adhèrent ou contre laquelle ils s'insurgent. Pour notre part, on situe notre scénario à l'an 843 après Jésus-Christ. Donc, on est en territoire nordique, on est en Scandinavie. À l'époque, là, on est tout de suite après Charlemagne. Donc, c'est l'Empire carolingien et c'est tout de suite, c'est vraiment les années du traité de Verdun. Donc, à ce moment-là, il y a la succession de l'Empire de Charlemagne qui se dispute l'Empire, c'est-à-dire Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve qui se disputent là, toute l'Europe qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, j'imagine, en fait, que vous mettez tout le monde dans le contexte. Est-ce que chacune des personnes possède un personnage qui a un rôle clé, à qui on va décerner, finalement, une historique et à qui on va demander d'aller dans une direction? Ou est-ce que ça va être plutôt du style, je sais pas, il va y avoir des joueurs qui vont être au courant de certains secrets puis qui vont faire certaines actions à certains moments? C'est comment que ça se passe exactement dans la réalité au moment du gaming?
Oui, donc ça, c'est un aspect important, c'est de... Dans le fond, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut toujours tenir nos joueurs en mouvement. C'est notre objectif. C'est ce qui va faire que notre expérience va être intéressante. Donc, si on veut que, justement, des nouvelles arrivent d'Europe ou des nouvelles de conquête arrivent, ben on va passer ça par des joueurs. On va faire venir un message écrit, un messager non-joueur ou quelqu'un qui va faire une coupure ou qui va faire un événement marquant dans lequel les joueurs vont avoir, et ça on leur suggère pas nécessairement, ils vont avoir à prendre l'initiative par rapport à ça et à composer ça comme s'il vivait pour vrai.
Mais ça veut dire que toi aussi, en tant que scénariste, tu vas être obligé de t'adapter à tout moment, si je comprends bien, parce qu'il va y avoir sûrement d'autres situations qui vont intervenir. Ou est-ce que tu es quand même, tu arrives toujours à les garder la bribe, disons, un petit peu pour les contrôler?
Je vous donne un exemple. On va avoir un personnage non-joueur qui, lui, est un conquérant historiquement. C'est un personnage viking qui a fait des conquêtes dans les années suivantes du moment où on se place. Donc,
juste une seconde, oui. Un personnage non-joueur, est-ce que tu pourrais juste expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas ça?
Le personnage non-joueur fait partie de notre équipe, c'est-à-dire que c'est un organisateur, c'est quelqu'un qui est là pour... dont la tâche est de faire interagir les autres. Donc, c'est un des animateurs qui va prendre un rôle clé et qui va amener des éléments qui ne sont pas nécessairement pertinents de faire rentrer par un joueur parce que c'est très momentané. C'est-à-dire que ce personnage-là, si on le jouait plusieurs fins de semaine de reprise, deviendrait très ennuyant.
Finalement, c'est un personnage qui est voué à disparaître ou à mourir.
C'est ça, ou à s'exiler, quoi que ce soit. Celui-là, s'il est assassiné sur place, ben on essaie d'avoir une logique là-dedans. C'est sûr que pour les joueurs, on se permet des petits écarts parce que pour des fins là, d'intérêt de jeu, il faut que nos joueurs reviennent à la vie pour participer toute la fin de semaine. Les personnages non-joueurs, ben s'ils meurent, on compose avec. C'est-à-dire que si ce personnage-là meurt, ben ça va affecter le cours de l'histoire et on va composer avec ça. On n'a pas à se plier à ce qui est historique. On est là pour avoir du plaisir, puis on est là pour que les joueurs sentent que leurs actions ont une importance.
Tout à fait. Puis là, j'imagine que, bon, une fois que tu vois l'ensemble se dégager devant toi, là, il va falloir quand même que tu composes. Compose avec les événements qui se sont passés. J'imagine aussi que de GN en GN, il doit y avoir aussi, si tu veux avoir une continuité, il va falloir en effet que tu t'adaptes à l'ensemble des situations qui ont eu lieu.
Voilà, puis c'est ça qui fait la richesse, là, je dirais, d'un grandeur nature intéressant par rapport à un grandeur nature moins intéressant à mon sens, c'est que l'organisation va composer avec ce que les joueurs amènent et les initiatives. Par exemple, s'il y a une union qui se fait entre un joueur féminin et masculin dans le jeu, par exemple, ça peut être intéressant que l'organisation s'en mêle puis propose des éléments de scénario par rapport à ça, des événements qui pourraient se passer ou des... je donne un exemple, un personnage qui viendrait prétendre à demander la main de la dame là, qui est impliquée là-dedans pour qu'il se passe quelque chose.
Dis-moi, ça doit demander énormément de personnes ça, pour faire un scénario ou est-ce que c'est juste une seule personne qui s'occupe de cette partie-là?
Ben, on essaie d'avoir là, des consultations de groupe puis on prend beaucoup les contraintes ou les aspects à ne pas manquer pour ensuite tisser ça ensemble. Par exemple, si on a un joueur inscrit déjà qui nous dit « j'aimerais... » j'aimerais m'organiser de telle façon, j'aimerais faire telles actions, ben on peut prévoir des personnages non joueurs liés avec ce que lui désire faire. C'est vraiment dans le but d'être intéressant pour les joueurs. Puis je vous dirais que généralement il va avoir une personne qui va roder l'essentiel de l'historique. Puis ensuite chacun des organisateurs y amène sa couleur là, dans ce que lui souhaite faire pendant la fin de semaine.
Puis j'imagine aussi que ça doit prendre beaucoup d'expérience pour faire un bon maître de jeu.
Ben je vous dirais que on peut pas demander de quelqu'un qui a participé une ou deux fois de pouvoir anticiper tout ce qui pourrait arriver pendant une fin de semaine, de pouvoir tout gérer les événements avec initiative et spontanéité là, pendant l'événement. Donc, c'est bien de s'entourer de des gens là, qui ont quelques événements faits puis qui ont un peu pris un recul par rapport à la façon dont c'était organisé, ce qu'ils ont vécu dans une expérience grandeur nature.
En tout cas, c'est vraiment très, très, très intéressant. Est-ce que tu pourrais rappeler votre grandeur nature à vous, entre autres? Ça s'appelle comment exactement?
Oui, notre grandeur nature s'appelle Midgard, l'aube du Ragnarok. Ça se situe dans la région de Bellechasse. Donc, notre terrain, pour l'instant, est stable à Saint-Héry de Bellechasse. Il va probablement changer dans les années à venir pour différentes raisons.
Y a-t-il un site internet où on peut venir voir les informations?
Le midgargn.cjb.net. Donc, à l'intérieur duquel il y a toutes les informations pour créer le personnage ainsi que l'historique là, qui est rattaché à ça.
Et c'est Antoine, merci, c'est toi qui t'occupes du scénario.
Du scénario en particulier, oui.
Antoine, merci beaucoup d'être venu pour nous présenter justement le scénario et puis comment ça se passe dans un grandeur nature au niveau des scénarios de grandeur nature. Merci aussi à toi, Kevin, même si tu as été particulièrement silencieux aujourd'hui. Je sens que ton fan club a commencé à se poser des questions.
La semaine prochaine, je me reprends.
Bon, c'est parfait, c'est génial. Vous étiez donc sur les ondes de CKIA. Juste le temps pour nous de passer peut-être un agenda très rapidement. Ce soir, à 19h, vous pouvez aller faire un petit tour du côté de l'Ostradamus. Vous allez pouvoir rencontrer une très gentille gang qui joue à des jeux de plateau à tous les lundis soirs, justement. Puis demain, si vous êtes un adepte de Go, vous le savez déjà, à Laga, il y a le café Laga, il s'entend ici évidemment, il y a des soirées de jeux de Go, le fameux jeu chinois. Et puis en ce qui nous concerne, dans deux semaines, c'est-à-dire le 8 mars, il y aura la prochaine journée de jeux de puissance maximale. En fait, c'est l'été qui commence ça commence à sentir l'été, puis on commence à revoir apparaître des événements de jeux à travers la province. Donc surtout restez à l'écoute dans les prochaines semaines de puissance maximale, parce qu'on va toutes essayer de vous les présenter, ces événements de jeu-là. Et puis, en ce qui nous concerne, on vous souhaite une excellente semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Puissance Maximale, votre magazine de jeux sur les ondes de CKIA et en rediffusion sur lepetitpeuple.fr. Salut à tous, bye bye.
I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D!
Never kissed a lady before.
Nope.
Mm-mm. Woo!
All right.
Take it home.
Droit de parole est un journal communautaire gratuit et indépendant publié 9 mois par année et distribué à 15 000 exemplaires dans les quartiers centraux de Québec. Dans l'édition de février 2008, disponible dès maintenant. Dossier Rabaska, le gouvernement Charest dort-il au gaz? Retour sur 20 ans de droit à l'avortement et les soirées des 400e, une autre façon de célébrer. Tout ça et bien plus dans le journal Droit de parole.